L'accompagnement des élèves en surdoués, c'est le prochain sujet. On retombe sur nos pattes. Elle qui est professeure régulière et en didactique des mathématiques au primaire et membre surtout là, de l'Union d'enseignement et de la recherche en sciences de l'éducation de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Bonjour, je présume que c'est Mme Amzaoui? Amzaoui?
Amzaoui.
Amzaoui, désolé.
C'est important.
Les critères pour dire qu'un enfant est surdoué versus il est juste bon. La douance, ça commence où?
En fait, ce sont des élèves qui vont manifester des habiletés et des aptitudes qui vont être un peu supérieures à ce qui est considéré comme la norme dans le cas général. Par exemple, les enseignantes, le cas que je vis actuellement, les enseignantes dans une leçon de mathématiques, ces élèves-là vont avoir de la facilité à accéder à l'abstraction mathématique, par exemple.
Ouais.
Ou à la difficulté à laquelle va être confrontée l'enseignante, c'est que ces élèves-là avancent plus vite que ce qu'elle a prévu pour l'ensemble de la classe. Donc, il y a certes plusieurs définitions qui sont données. D'ailleurs, même le terme « douance », c'est le terme que le Québec a choisi, mais on peut trouver beaucoup d'autres terminologies, donc haut potentiel intellectuel, surdouance, etc. Mais au Québec, c'est la douance qu'on a c'est la terminologie qu'on a adaptée. Selon François Gagné, qui a travaillé à établir un modèle théorique pour définir, si vous voulez, la douance et le talent. Donc, lui, il désigne ces enfants-là comme possédant et ayant la capacité d'utiliser des habiletés et des aptitudes naturelles. Donc, ça peut se manifester de façon spontanée.
Ah oui.
Un ou plusieurs aptitudes. Donc, on n'a pas, généralement, pour certains enfants, on n'a pas à les pousser pour qu'ils aient les dons. Ils les ont déjà. Contrairement aux enfants talentueux, ils vont avoir donc des aptitudes et des habiletés, mais on va devoir travailler un peu plus pour les pousser à aller atteindre leur plein potentiel.
Est-ce qu'on a une idée du pourcentage d'enfants ou de Québécois avec une douance?
En fait, moi, personnellement, je n'ai pas accès à cette information vu qu'il n'y a pas beaucoup de recherches qui sont faites à ce sujet-là. Il y a une estimation de 20 000 élèves qui seraient doués ou talentueux, mais des statistiques exactes, je n'ai pas cette information.
Peut-on penser qu'il y a, parce que je présume qu'il y a un sous-diagnostic, donc qu'on est encore loin d'avoir justement une appréciation du phénomène ici?
Tout à fait, ouais. Tout à fait. Vu l'absence d'un cadre législatif de la part du ministère de l'Éducation, il n'y a pas vraiment beaucoup d'initiatives qui vont aller dans ce sens. Donc, il y a certaines écoles, certaines commissions scolaires qui ont pris le devant, qui ont déjà leur cadre de référence et leur politique pour l'accompagnement de ces élèves-là. Mais vous avez bien raison, c'est ce qui fait que on ne peut pas dire que tous les élèves ont été détectés, qu'ils bénéficient d'accompagnement ou qu'on réponde à leurs besoins.
Lorsque vous parlez de l'absence de cadre législatif, c'est qu'il n'y a pas de service, il n'y a pas de... Qu'offrirait un cadre législatif?
En fait, le cadre législatif, ce qu'il va offrir, c'est permettre aux commissions scolaires de mettre en place des programmes... de bénéficier de subventions justement pour avoir du personnel qualifié ou bien pour offrir des formations à leurs élèves. Donc, c'est à ce niveau-là que le cadre viendrait renforcer le travail que pourraient faire les écoles et les commissions scolaires.
Si on parle d'accompagnement, parce que bon, on entend parfois des élèves qui peuvent même aller jusqu'à décrocher parce qu'on s'ennuie à l'école. Peut-être aussi même qu'on peut se faire intimider parce que bon, on sait bien, elle, c'est la bolle. quel type d'accompagnement est offert et quel type d'accompagnement devrait être offert, selon vous?
Il y a plusieurs possibilités. Cela va dépendre des écoles elles-mêmes, des enseignantes et des enseignants eux-mêmes. Les possibilités qui s'offrent, d'abord, il y a l'étape de l'identification.
Oui, c'est
donc,
ça.
Et avoir la possibilité de pouvoir identifier ces élèves-là, parce que beaucoup passent inaperçus ou décrochent, comme vous l'avez bien dit. Ensuite, au niveau de l'intervention, il y a deux possibilités. On peut intervenir en classe, donc l'enseignante va offrir un enseignement différencié. Et quand on parle d'enseignement différencié, on prend en compte les élèves qui cheminent de façon normale, régulière, les élèves qui sont en difficulté d'apprentissage, okay, mais aussi les élèves qui pourraient aller un peu plus loin. Donc, à ces élèves-là, ce qu'on pourrait offrir, c'est par exemple l'enrichissement dans une ou plusieurs matières. Il y a ensuite l'intervention hors classe. Donc, les élèves pour qui l'enrichissement en classe n'est pas suffisant, on pourrait leur attribuer des séances de travail où ils pourraient travailler sur des projets personnels, où il y a même des expériences où les élèves se déplacent à l'université pour lesquelles on a des sortes d'ateliers qui sont étudiés et élaborés pour eux. Il y a l'accélération scolaire aussi qui peut être une solution pour certains élèves. Mais là, bien entendu, il faut voir avec l'écart d'âge, l'élève qui va dans un groupe où il est le plus jeune, parfois c'est difficile à vivre. Regrouper les élèves qui manifestent les mêmes dons, les mêmes talents. Ce qui est privilégié, c'est que d'offrir un accompagnement dans l'école même, ne pas sortir l'élève de son école.
De son milieu, là.
Oui, de son milieu, parce que l'école est là pour permettre aux élèves d'apprendre, mais d'apprendre ensemble.
Ouria Hamzaoui est membre de l'Union de l'enseignement. Oui, c'est vrai, l'unité d'enseignement
et
de la recherche en sciences de l'Université de l'Éducation à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Comment se fait-il qu'on a de la difficulté à diagnostiquer ou à détecter, disons, la douance? Moi qui ne connais pas ça, ça m'apparaît, j'ai de la difficulté à comprendre parce que si on voit que l'enfant fait ses devoirs une main dans le dos, si on voit que l'enfant finit ses travaux plus rapidement que les autres puis s'ennuie ou est dans la lune, il me semble que c'est évident que, OK, il est très, très bon.
Effectivement. Et c'est là la difficulté à laquelle font face les enseignantes. Elles sont démunies face à ce genre de situation. Il n'y a pas pour la majorité des écoles, mis à part la commission scolaire Marguerite Bourgeois qui est déjà très en avance dans ce domaine-là, le reste des écoles du Québec ne sont pas outillées, les enseignantes ne sont pas outillées.
Okay.
Même dans leur formation, elles ne reçoivent pas les outils pour pouvoir accompagner ces élèves-là.
Mm-hmm. Mais ce qui fait qu'on remarque la force de l'élève, mais on ne sait pas quoi faire avec après.
Exactement. Oui.
Puis on ne peut pas dire aux parents, peut-être, ben l'an prochain, inscrivez-le dans un programme, je ne sais pas moi, sport-études, sport-musique, sport-culture, sa place n'est pas dans cette école-ci.
Effectivement, si la possibilité s'offre, c'est ce qui se fait, en fait.
Ah, okay.
Si je regarde ici, nous, à Rouyn-Noranda, il y a une école secondaire qui offre ces programmes sport-études, et ils font de la programmation aussi pour ceux qui le souhaitent. Mais si on regarde au niveau des écoles primaires, là, c'est un peu plus difficile. Dans l'école, il n'y a pas d'école, à part une école qui a ouvert l'année dernière, une école alternative, où justement les élèves peuvent travailler sur des projets. Dans les écoles que j'appellerais régulières, à part l'accélération scolaire ou l'accélération pour les enseignantes qui se sentent capables de le faire, ce n'est pas évident pour toutes les enseignantes.
Ouais.
Et c'est là la demande que j'ai reçue en fait du milieu, de travailler avec des projets de recherche à pouvoir accompagner ces écoles-là.
Intéressant. Ouria Hamzaoui, merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne journée.